Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Cette citation de Pascal, nous vous l'avons souvent donnée à l'occasion du confinement du printemps dernier. Alors pour nous aider à ce que cette épreuve pas si lointaine devienne aussi une leçon de sagesse, cette émission ce matin sur la connaissance de soi, est devenue une sorte de mantra contemporain. Mais avons-nous toujours conscience que loin d'être nombriliste, elle rime aussi avec fécondité dans nos relations, nos activités sociales et professionnelles. Ce matin, première émission d'une série annuelle au cours de laquelle nous allons parcourir avec des coachs et formateurs nombre d'outils pour mieux vivre son job. Des outils, des intuitions parfois très bien connues de certains mais trop peu du grand public. Une année à chercher ensemble la voie de la sagesse et du bonheur en entreprise. Mieux vivre son job, première, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église en ce jeudi matin. Et pour inaugurer le bal de ce qui va devenir un rendez-vous régulier, on a eu un petit peu de retard à l'allumage, mais en ce mois d'octobre, on est content de commencer. Nous sommes avec vous, Médéric Saucé, vous êtes enseignant et formateur. Bonjour.
Bonjour Manuel.
Vous étiez venu déjà dans ces studios pour nous donner une formation, pour nous parler du leadership. Aujourd'hui, c'est la connaissance de soi. Pourquoi est-il bon parmi tous les outils? Je vais vous demander de faire l'article que nous allons parcourir au long de cette année. Outils fort savants pour certains. De commencer par la connaissance de soi. Dans le fond, la vie professionnelle est-elle aussi... on va dire un peu comme la sagesse des anciens, y a-t-il quelques rapports entre l'un et l'autre ?
Alors oui, tout à fait. À dire vrai, la connaissance de soi, c'est souvent un bien grand mot, comme vous l'avez évoqué. Lorsqu'on demande à une personne « qui es-tu ?», souvent on va répondre par des banalités. « Je m'appelle un tel, je viens de tel endroit. » Et c'est ce qu'on fait également dans la vie professionnelle, en disant le job que l'on vit, les missions éventuellement que l'on réalise. Mais finalement... toutes ces questions, elles ne nous donnent que des indices sur qui est la personne. Si nous faisons telle mission, c'est parce que l'entreprise dans laquelle nous sommes poursuit un but particulier. On voit bien que ces missions sont commandées par cette vision de l'entreprise, de la même manière que toutes nos actions personnelles. Et donc finalement, cette question de la connaissance de soi renvoie effectivement à ce qui était demandé aux Grecs. Mais qui es-tu? Vers quoi tends-tu? Quelle est ta finalité? Qu'est-ce qui te fait vivre au quotidien?
Ça donne une idée de CV, hein. Ça serait un beau CV à faire, tiens, pour voir et pour challenger nos éventuels recruteurs. Alors, cette connaissance de soi, donc on va essayer de la parcourir au long de connaissance de soi dans la vie professionnelle, au long de cette émission, je le dis par pédagogie. Vous allez nous aider à découvrir que, comme vous venez de le dire, il y a dans le fond toujours une motivation intrinsèque à nos activités professionnelles, et quand elle n'est pas là, cela peut être dramatique. On essaiera de se pencher sur une manière de découvrir en fait quelle serait cette motivation profonde qu'a tout à chacun, voire même une vocation professionnelle. Et puis à la fin, on essaiera de faire atterrir ça dans le monde de l'entreprise. Alors vous-même, vous m'avez évidemment fourni bien des choses pour préparer cette émission. Vous citez un certain Dan Peek, qui, si j'ai bien compris, donc est un journaliste et auteur américain, qui parle de motivation intrinsèque, donc dans la vie professionnelle. Qui est ce Dan Peek et qu'est-ce que la motivation intrinsèque, Médéric Saucé?
Alors Dan Peek, effectivement, est un journaliste, un essayeur, qui a développé, je l'ai découvert avec une vidéo TED, les TED Talks, je ne sais pas si ça vous parle, et effectivement, ce sont des petites vidéos qui sont faites sur Internet et qui ont pour mojo... ideas worth spreading, les idées qui valent la peine d'être répandues.
Alors mojo, c'est quoi? Parce que c'est un mot, j'ai l'impression que c'est souvent utilisé. Ah oui, je l'aime pour les bien. Nuls, c'est quoi mojo?
Je l'aime bien, en gros, c'est une phrase qui revient beaucoup, une tagline, une petite phrase qui résume finalement tout ce qu'on cherche à vivre au quotidien. Et donc Dan Peek effectivement fait un TED dont je recommande la vision, il le fait de manière très amusante, c'est un bon moment de repos. Et effectivement il parle de motivation intrinsèque, il fait cette remarque que dans les métiers qui demandent le plus d'inventivité, qui demandent le plus d'expertise, eh bien plus on augmente les profits, c'est-à-dire plus on augmente la rétribution financière que pourrait obtenir une personne en faisant telle action, eh bien plus finalement la tâche est moins bien réalisée, ou alors elle prend plus de temps, etc. En fait, il explique que pour les activités strictement techniques, où on répète tout le temps la même chose, bien plus on augmente
la rémunération,
merci beaucoup, et bien plus ça va faciliter et augmenter la réactivité et le travail qui va être fait.
Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire ?
Eh bien, en fait, il faut en déduire, et c'est ce qu'il fait, que pour les métiers qui demandent de l'adaptation, de l'inventivité, et aujourd'hui, on voit bien dans le monde qui nous entoure que l'adaptation est une des clés, eh bien, pour cela, il faut faire en sorte de disposer les gens à développer ce qu'ils appellent leur motivation intrinsèque, c'est-à-dire à une motivation qui ne viendrait pas justement d'une source extérieure, comme l'argent, la renommée, les honneurs, mais au contraire, que la personne, elle est là où elle croit qu'elle doit être, pour faire un projet qui lui tient à cœur, qui lui permet d'augmenter dans ses propres compétences. Autrement dit, elle réalise une action, elle participe au bien de l'ensemble de l'entreprise dans laquelle elle est, ou de la société, ou de l'association, et en même temps, elle développe ses propres capacités.
Alors, vous prenez un autre exemple, vous parlez d'un certain Max Mohr, qui est donc un philosophe, et semble-t-il assez féru de transhumanisme, et vous tenez à prendre cet exemple. Alors peut-être pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi cet exemple et qu'est-ce qu'elle est la pensée qu'il développe. On imagine que les transhumanistes ou leurs partisans ont des motivations intrinsèques à leurs activités, mais c'est peut-être pas toujours là de prime abord qu'on c'est pas forcément l'exemple qui nous viendrait en premier.
Alors tout à fait. Je crois au contraire que c'est l'exemple exemplaire aujourd'hui. Max Mohr, comme vous l'avez dit, effectivement est féru de transhumaniste. Il se présente lui-même comme étant un transhumaniste. Et le texte auquel je renvoie, c'est l'introduction des principes extropiens 3.0. Alors ça peut paraître très savant comme ça. C'est en réalité un texte extrêmement clair. Il n'y a que le mot extropien qui est compliqué. Mais c'est, indépendamment de ça, ce qui, moi, m'a intéressé dans ce texte de Max Mohr, c'est qu'il développe tout le programme et l'état d'esprit dans lequel sont les transhumanistes. Il a cette phrase où il dit à un moment...
Alors juste, les transhumanistes, oui. Pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est pas ça, il y en avait quelques-uns, c'est ceux, entre guillemets, qui misent sur toutes les technologies contemporaines diverses et variées pour aboutir à une humanité augmentée et améliorée. Je cite juste un passage de Principe Extropien 3.0 de ce certain Max Mohr. « Nous voyons les humains comme une phase transitoire placée entre notre héritage animal et notre avenir post-humain. » Voilà, le décor est planté. Mais pourquoi dans cet exemple des transhumanistes ?
Alors, à cause d'une phrase qu'il donne un peu plus loin dans les Principes Extropiens, où il dit que là où les gens voient une difficulté, eux voient un défi. En fait, eux, ils voient un défi parce qu'ils ne voient pas la difficulté en tant que telle, ils voient ce que la difficulté étant surmontée permettra d'atteindre. Et pour cela, on voit bien qu'ils ont une forte motivation intrinsèque parce que finalement, ce qui les intéresse, contrairement aux définitions qu'on peut trouver de la motivation intrinsèque sur Internet, la motivation intrinsèque n'a pas pour but de dégager un profit personnel, etc. Non, c'est finalement une motivation intrinsèque répond au fait de chercher à réaliser ce qui nous tient le plus à cœur. Et justement, les transhumanistes, eux, ce projet qu'on peut juger fou, irréaliste, au contraire essentiel, eh bien, ils y croient dur comme pierre. Et c'est un espoir transhumaniste qu'ils cherchent à réaliser au quotidien. Cette motivation intrinsèque qui est la leur, eh bien, elle consiste à dire que si nous ne cherchons pas à faire évoluer l'homme de son état actuel à un état post-humain, eh bien, c'est pas compliqué, mais il mourra. C'est, par exemple, ce que diront Didier Kernel et Marc Roux dans Technoprog, qui présentent aussi la pensée transhumaniste, et qui dit justement « le soleil grandira et il finira par détruire toute vie sur Terre. Tout ce qui nous est cher périra ». Et donc, il présente cette philosophie transhumaniste comme étant quelque chose d'essentiel et indépendamment des ressources financières qu'on pourrait dégager.
Donc voilà des gens qui ont une motivation intrinsèque. Alors maintenant, faisons le lien avec la connaissance de soi.
Alors,
quel lien faites-vous ? Là, vous faites appel aux anciens et aux grecs. Voilà, le lien que vous avez fait entre l'un et l'autre.
Alors, En réalité, Max Mohr nous le dit justement dans ce document, sur quoi les transhumanistes développent leur pensée. Sur deux choses. La première, sur une connaissance de la nature humaine. Il prétend, donc, et ça, une connaissance tirée de la nature humaine, à savoir que ben, l'évolution, donc tirée de la biologie évolutive, hein, à savoir que la nature a permis l'apparition de nouvelles espèces, dont l'homme, et cette espèce qui serait dotée de l'intelligence, qu'il présente comme étant une différence spécifique par rapport aux autres espèces, eh bien, a donné l'opportunité à l'homme de se développer par lui-même, par ses propres capacités. On le voit bien avec l'apparition de l'avion, des lunettes, de la radio, etc. Et la deuxième chose qui leur a permis de développer cette philosophie, c'est ce rapport que vous connaissez sans doute, demandé par le gouvernement Clinton en 2002, disant que bah, c'était le premier moment dans l'histoire de l'humanité où ce projet de développer l'homme par des compétences techniques, par des technologies, était possible. C'est ce qu'on appelle la fameuse convergence NBIC.
Le rapport avec la connaissance de soi.
Et justement, c'est ça. C'est qu'en fait, pour développer des projets aussi énormes que le leur, eh bien, ils sont d'abord appuyés sur la connaissance de ce qu'est l'espèce humaine. Ils ont considéré à quel moment eux étaient, post-2002, une fois que cette convergence est apparue. Et cet espoir transhumaniste, qui pouvait sembler être un espoir fou, eux, ils le pensent réalisable. Autrement dit, ils se sont intéressés sur qui ils sont, et parce que leur projet s'inscrit sur une connaissance de ce qu'est l'homme. De la même manière que ce projet universel qui s'appuie sur la connaissance de ce qu'est l'homme de manière générale, de la même manière, nos projets personnels, individuels, doivent s'appuyer sur une connaissance de qui nous sommes.
Alors là-dessus, vous faites venir une vertu, c'est donc une vertu cardinale, il y en a quatre, hein, pour rappel, la tempérance, la prudence, la justice et la force. Et vous insistez sur la prudence. Alors, représentez-nous cette vertu et pourquoi vous la sortez de votre chapeau maintenant.
Et la belle vertu, ma vertu préférée après la magnanimité. Ma vertu préférée, pourquoi ? Parce que c'est celle des sages. C'est la vertu de ceux qui sont capables de mettre un ordre dans leur action au quotidien. Finalement, la vertu de prudence se distingue sous trois actes, qui sont la délibération, le jugement et le commandement. C'est assez facile. Demain, vous devez partir à Paris. Eh bien, voilà, ça, c'est votre projet. Eh bien, vous allez délibérer sur les moyens à mettre en œuvre pour y aller, en avion, en train, en voiture, à cloche-pied. Ou ensuite, vous allez décider le moyen qui vous semble le mieux par rapport à vos circonstances. Vous devez y aller pour manifester. Pour un projet professionnel, pardon, vous devez donc aller vite. Vous avez peut-être opté pour l'avion. Vous voulez manifester l'effort, manifester la distance qu'on a oubliée avec justement les nouvelles technologies. Vous allez y aller à pied pour manifester le temps réel que cela prendrait, etc. Donc vous allez choisir quelque chose, c'est le deuxième acte après la délibération. C'est l'acte qui vient terminer la délibération, c'est le jugement. Et enfin, une fois que vous avez jugé que c'est l'avion, par exemple, qui vous conviendrait le mieux, eh bien vous commandez, c'est-à-dire que vous passez à l'action. Donc c'est cette vertu-là sur laquelle je m'appuie qui me semble être cruciale justement par rapport à la connaissance de soi.
Pourquoi ? Vous pouvez repréciser ?
Eh bien, tout simplement parce que celui qui s'ignore lui-même ne sait pas où il va. Et parce qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas non plus par quel chemin aller. C'est fort simple. Si je dis que je vais à Paris, eh bien, je sais que je vais à Paris, eh bien, je sais que je vais pouvoir passer par tel ou tel ou tel endroit. De la même manière, dans notre vie, si nous savons que nous voulons fonder un foyer, je le prie comme exemple puisque c'est mon cas, eh bien, je sais quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour réaliser cette finalité. Si vous êtes au contraire dans une entreprise, et ça marche aussi pour la vie personnelle, si vous êtes dans une entreprise...
Pas seulement les moyens, discerner, vous dites la prudence, c'est discerner la finalité, moyens,
c'est ça.
Et après la proportion des moyens.
Exactement, c'est ça.
Donc reprenez l'exemple de « j'ai envie de fonder un foyer ».
Donc « j'ai envie de fonder un foyer », bon ça c'est ma finalité, et pour atteindre cette finalité, eh bien, je vais pouvoir discerner un ensemble de moyens proportionnés. Le moyen que j'ai choisi, ce fut le mariage, et l'autre moyen, ce fut le fait de chercher à avoir un enfant, ce qui est en cours. Et donc, on voit bien ici qu'il y a d'abord une élection de la fin, fonder un foyer, un discernement des moyens, que j'évoquais, mariage, engendrement, et enfin un jugement par rapport à ces moyens qui sont proportionnés puisque ce sont les actes habituels, les actes naturels par lesquels on crée un foyer. Et dans la vie entrepreneuriale, c'est la même chose. Je poserai juste une question pour conclure ma remarque. Savez-vous pourquoi est-ce que vous travaillez ?
Quel est le rapport avec la prudence ?
C'est ça.
Quel est le rapport avec la prudence ?
Mon rapport avec la prudence est très simple, c'est que les actions que l'on pose au quotidien, ce sont les moyens d'atteindre quelque chose. Vous, savez-vous pourquoi vous travaillez ? Quelle est cette finalité vers laquelle vous tendez ? Si c'est le cas, alors vous savez quand vous aurez atteint cette destination. Si ce n'est pas le cas, quand est-ce que vous aurez perçu que vous avez effectivement accompli votre action ?
On va faire une première pause et puis on va se faire un petit récap quand même après la première pause. Motivation intrinsèque, connaissance de soi, vertu de prudence, c'est le début du chemin que vous esquissez pour cette première émission, donc sur la connaissance de soi, pour une première partie pardon, de cette émission sur la connaissance de soi dans la vie d'entreprise.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Mieux vivre son job, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Première émission donc d'une série d'émissions qu'on va essayer de rendre régulière, si possible mensuelle au long de cette année. Première émission donc sur la connaissance de soi dans la vie d'entreprise, au service de l'entreprise, bon bref, au service de soi et après de la vie d'entreprise, c'est ce qu'on va découvrir avec vous. Médéric Saussé, je rappelle, vous êtes enseignant et formateur. On va se faire une petite session de rattrapage ou de conclusion pour la première partie, puisque vous nous avez dit beaucoup de choses et des choses parfois fort savantes. La connaissance de soi est clé pour la réussite ou le bonheur dans la vie de l'entreprise. Redites-nous votre articulation, motivation intrinsèque, connaissance de soi et prudence.
Alors pour ça, je vais partir d'un exemple, à savoir ce que dit Tristan Harris, un ex-ingénieur chez Google. C'est un extrait d'une série qui est en cours, à savoir Derrière nos écrans de fumée, où il y a une critique en fait des réseaux sociaux, Facebook, Google, Pinterest, etc. Ce sont les gens qui parlent dans cette série sont les gens qui ont créé ces instruments-là. Et il dit la chose suivante. On n'a pas du tout pris la direction. On n'a pas du tout pris la bonne direction. On s'est trompé sur toute la ligne. Ça paraît fou de dire il faut tout changer, mais c'est ce qu'on doit faire. Et j'ai trouvé cette phrase extraordinaire parce qu'elle signifiait que la première chose qu'il faut faire lorsqu'on cherche à développer un projet, une action pour être vraiment heureux dans ce qu'on fait et heureux de voir ce qu'on a réalisé, eh bien il faut déterminer la fin. Tous nos réseaux sociaux, etc., ne sont que des moyens. Mais ces moyens s'ordonnaient à quelle fin ? Quelle était la finalité de ceux qui ont créé cela ?
Alors ça va pour la finalité, cette motivation intrinsèque. Quid de là-dedans, vous injectez donc connaissance et prudence, si vous reprenez ça pour
Et justement, donc ici, la vertu de prudence comme étant la vertu qui permet de délibérer sur les moyens à mettre dans une fin qui est proportionnée et fin qu'on a elle-même, à propos de laquelle on a elle-même délibéré. Eh bien, on le retrouve dans cet exemple, à savoir qu'il aurait fallu délibérer sur cette finalité pour savoir si les moyens étaient proportionnés. Et peut-être que les technologies avancent trop vite et qu'on n'a pas le temps de les intégrer comme il convient. Et au niveau de la connaissance de soi, ce qui est intéressant de voir ce que Tristan et d'autres disent, c'est de voir que pour eux, c'est une technologie qui est déshumanisante et qui les empêche de se développer comme il convient. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces personnes-là interdisaient à leurs enfants d'utiliser ces nouvelles technologies.
Alors, deuxième partie, vous allez nous présenter un outil qui vous semble assez convaincant justement pour découvrir un chemin, peut-être au-delà de cet outil, découvrir la motivation intrinsèque qui serait celle de chacun dans la vie professionnelle. Ça a même un terme, c'est découvrir sa vocation professionnelle. Avant qu'on se plonge dedans, Médéric Sossé, tout le monde a-t-il une vocation professionnelle? Ça semble un peu fort ou excessif comme expression. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça?
Alors, pour moi, le terme le plus important, c'est le terme vocation, vocare, appelé, être appelé. On le voit bien, une personne à qui vous posez une question, une énigme, etc., va s'enquérir de la solution. Il ne sera pas en repos, il sera comme appelé, il sera comme mu à discerner cette réponse. Finalement, la vocation, indépendamment du caractère strictement religieux dans lequel on peut entendre une vocation religieuse, etc. On le voit bien que c'est quelque chose de l'ordre de notre vie interne, de notre intelligence, de notre volonté, de nos émotions. On est appelé à tendre vers quelque chose. Et cette vocation professionnelle, pour moi, c'est justement le fait de discerner ce qui nous attire, ce qui nous appète dans le cadre de ce qu'on appelle la vie professionnelle, même si je pense que le terme de vocation professionnelle peut ici s'étendre aussi à la dimension associative, à la dimension même familiale, etc. Pour moi, la vocation professionnelle, ça va être le fait de discerner ce vers quoi nous tendons dans le cadre de notre vie professionnelle, pour la nommer ainsi.
Alors, l'outil sur lequel vous vous basez, je vais vous laisser le présenter, a été donc créé par un certain François-Daniel Mijon, qui a ouvert un cabinet qui s'appelle le Thomas More Leadership Institute. Voilà, il faut tout seigneur, tout honneur. Et alors, derrière ça, il y a les dimensions, il y a l'idée, si j'ai bien compris, qu'on aurait tous, en fait, un grand service à rendre aussi. C'est important de le préciser comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, on va dire, de nouveau ou d'innovant là-dedans ou dans cet outil ?
Alors justement, ce que je trouve assez extraordinaire, donc c'est effectivement ce sur quoi je m'appuie, c'est tiré d'un livre, comme vous l'avez cité, de François-Daniel Mijon, à savoir le leadership authentique. Et en fait, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que ici, on redécouvre quelque chose qu'en fait les anciens faisaient déjà depuis très longtemps. À savoir, c'est ce que faisait par exemple Thalès. Ceux qui suivaient Thalès devaient discerner en eux-mêmes, faire une introspection régulière pour savoir ce vers quoi ils tendaient, etc. Et c'est quelque chose qu'on a tout à fait oublié, justement, au profit d'autres méthodes de connaissance de soi. Je pense comme ça à l'Ennéagramme, au StrengthFinder, ou des choses comme ça qui, effectivement, vont identifier un certain nombre de compétences que nous avons, une compétence à être persévérant dans l'action, à être empathique, à être à l'écoute, etc. Oui, mais finalement, être capable de persévérer dans l'action, être capable d'être à l'écoute ou autre, si on ne sait pas au service de quoi ça peut être mis, bah en fait, c'est un peu vain. Ce serait un peu comme un
C'est comme un volant d'une voiture, mais on ne connaît pas la direction. C'est
un peu ça, effectivement, oui. Je vais prendre l'exemple du smartphone, mais c'est effectivement la même idée. Et c'est pour ça que ce que je trouve assez juste, c'est, comme vous l'avez noté, appuyer sur l'idée de service. Aristote évoquait le fait que l'homme n'était pas qu'un animal rationnel, individuel, qui cherchait sa petite contemplation personnelle, mais au contraire, qu'il devait tout faire pour disposer l'ensemble de la cité à contempler. C'était un animal politique. Et c'est par voie de conséquence, on se rend compte que pour Aristote, l'idéal de la grandeur, c'était le fait d'être magnanime, le mot que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir celui qui est excellent dans les vertus et qui, étant devenu lui-même un maître, est capable d'engendrer d'autres maîtres semblables à lui. Et pour faire cela, c'est rien de compliqué en soi, c'est d'essayer de discerner nos propres compétences et d'essayer d'établir les moyens proportionnés pour permettre à d'autres personnes d'acquérir ces compétences ou de connaître nos compétences pour les mettre au service des gens qui en ont besoin. C'est la fameuse phrase « quand j'ai pas les compétences, d'autres les ont pour moi ».
Alors, ce service, donc cette vocation professionnelle, il y a une manière, semble-t-il, de la discerner. Alors, peut-être qu'on ne peut pas faire l'exercice comme ça chez soi tout seul, il faut aussi le préciser. Hein. Souvent, il faut se faire accompagner. Il y aurait trois critères, donc à vous entendre et à entendre ce fameux François-Daniel Mijon. C'est quelque chose où l'on rend un service, justement, et ce, de manière assez naturelle, aussi surprenant que ça puisse paraître, et où les autres sont, on va dire, positivement impactés, ils nous manifestent une réelle gratitude. Expliquez-nous ces trois points, et peut-être prenez un exemple.
Alors, je vais prendre un exemple tiré de ma propre vie, parce que je suis encore la personne que je connais le moins mal. J'avais un jour accompagné un étudiant qui avait beaucoup de mal à respecter les deadlines, respecter les temps qui lui étaient alloués pour réaliser tel ou tel projet. Et en fait, je l'avais accompagné en l'amenant à comprendre que respecter les horaires lui permettrait de développer sa vertu de justice. Et c'était vraiment un moment dans lequel j'étais très heureux, parce que je ressentais que j'étais à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne, et que je procédais de la bonne manière. Je me suis accompli en donnant quelque chose de moi-même à quelqu'un d'autre, et cette personne a ressenti de la gratitude, me l'a dit d'ailleurs, ce qui n'enlève rien. Et par ailleurs, effectivement, c'était quelque chose de tout naturel, au sens où ça ne me demandait aucun effort émotionnel. Lorsque j'accompagnais cette personne, et c'est revenu très très souvent depuis, lorsque j'accompagne quelqu'un, eh bien, je ne pense absolument pas à ce qui s'est passé avant ou ce qui s'est passé après. Je suis juste avec la personne, avec tout ce que je suis, et je me mets à son service. Il n'y a aucune entrave, d'une certaine manière.
Alors, si vous deviez prendre l'exemple, mais en le précisant davantage, dans ces cas-là, vous avez commencé à parler de vous. Quelle est votre vocation professionnelle et en quoi rejoint-elle, on va dire, ce triptyque indiqué?
Alors, en fait,
il y a une manière d'arriver à la formuler dans sa vocation professionnelle, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, simplement, au niveau... Ça, c'est un petit conseil pour ceux qui voudraient acheter le livre pour essayer de le faire par eux-mêmes, etc. Lorsque j'ai essayé de le discerner pour moi-même, j'ai pris des moments très différents. J'ai pris un enseignement, un accompagnement et une formation. Et en fait, j'ai essayé de voir une structure qui se retrouvait. Et ce que je propose de faire aux gens que j'accompagne, c'est d'abord d'identifier les moments qui les rendent heureux, tout simplement. Quand étiez-vous heureux? À quel moment? Et en essayant d'être assez détaillé, enfin, à quel moment, c'était avec qui, que faisions-nous, etc.
Vie professionnelle ou personnelle, en
l'occurrence. Vie professionnelle ou personnelle. Pour moi, ça peut tout à fait s'appliquer sur les deux domaines. Deuxième question, une fois qu'on a identifié ces moments-là, dans ces moments où j'étais heureux, en étais-je la cause? Vous voyez, par exemple, je prenais l'exemple d'une personne qui suit une formation ou un étudiant qui suit un cours, qui est heureux, qui sent qu'il est à sa place, etc. Oui, mais personne n'a la vocation à être formé ou la vocation à être un étudiant, parce que par nature, ce sont des états passagers.
Donc c'est une situation dans laquelle on est actif.
Donc c'est effectivement non seulement actif, mais l'étudiant aussi peut être actif, enfin on l'espère toujours, de même que les formés, mais là où on est vraiment le moteur principal. On est l'initiateur finalement de l'action ou du moment qui nous a rendu heureux. Ça c'est le deuxième critère. Premier critère, est-ce que c'est un moment qui nous a rendu heureux ? Deuxième critère, est-ce que j'en étais le moteur ? Typiquement dans l'accompagnement, effectivement j'étais heureux et j'ai été le moteur de ce discernement. Et troisièmement, dans ce cadre-là, qu'est-ce que j'ai spécifiquement apporté ? À cette personne, je n'ai pas du tout apporté un emploi du temps. Je n'ai pas du tout apporté un outil technologique. Ce que j'ai apporté, en fait, c'est simplement un éclairage sur sa vie intellectuelle, sur la manière de vivre les actions qu'il posait au quotidien. Et même là, ce n'était pas un enseignement. On l'a fait selon un mode discursif. Je lui ai posé des questions par rapport à l'importance qu'avait la vertu de justice dans sa vie, etc., etc. Et c'est petit à petit qu'il a vu l'exigence, finalement, de respecter l'horaire des rendez-vous, par exemple, pour honorer cette vertu de justice et la développer à plein. Ma vocation, à titre personnel...
J'allais vous la demander, puisque vous acceptez de vous prendre comme exemple.
C'est ça, exactement. C'est finalement d'accompagner les gens à développer leurs projets en les aidant à développer leurs aptitudes naturelles. C'est du coup m'appuyer, pour le dire de manière plus concrète, les écouter, savoir qui ils sont, ce qu'ils ont un peu dans le ventre, si vous me passez l'expression, et de voir comment améliorer justement ces dispositions naturelles qu'ils peuvent avoir à l'aune de tel ou tel instrument dont j'ai la maîtrise.
Vous allez me dire, dans ces cas-là, Emmanuel, il fallait écouter la première partie, mais qu'est-ce que ça change, Médéric Sossé, quand on a découvert pour soi-même dans le fond, une grande ligne directrice à vous entendre, qui est un service que vous êtes appelé à rendre, qui peut se vivre aussi dans différentes situations professionnelles, ça c'est important de le préciser, on n'est pas toujours à 100% à rendre son service, mais dans beaucoup de situations, on peut trouver à le vivre, ce service, pour le coup. Ça change quoi dans la vie professionnelle ?
Ça ouvre les yeux. En somme, c'est vraiment ça, ça ouvre les yeux. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses personnes qui laissent passer des opportunités qui leur passent devant tous les jours. Pardonnez-moi, c'est un peu banal, mais...
C'est un peu macronien, là, votre réponse, là. C'est, il suffit de traverser la rue, c'est ça c'est...
Bah, de fait, ma dernière opportunité professionnelle que j'ai eue, et je l'ai eue en achetant une chaise haute de bébé sur le Bon Coin. J'ai discuté avec cette personne, qui était extrêmement intéressante, et il se trouve qu'elle avait exactement les compétences, le caractère que je cherchais chez une personne avec qui travailler. C'était exactement ça. Aujourd'hui, on est à deux doigts de sceller de manière contractuelle une relation professionnelle. Et ça ouvre les yeux. À partir du moment où vous savez où vous allez, eh bien vous êtes plus à même de saisir les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes pratiques, les bons lieux, etc. Ça ouvre les yeux.
Le livre de François-Daniel Mijon, j'ai oublié de me le noter, rappelez-le.
Le leadership authentique.
Le leadership authentique, François-Daniel Mijon. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver. Et puis maintenant, il va falloir faire atterrir ça dans le monde de l'entreprise. Car il y a soi, mais il y a aussi l'organisation pour laquelle on travaille. Et de tout ça, il faut arriver à faire un mariage heureux. Thank you. Mieux vivre son job, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, première donc d'une série d'émissions qu'on va essayer de rendre régulière. Et nous sommes avec vous, Médéric Saussier, vous êtes donc enseignant et formateur pour cette première émission dont le thème, le sous-thème, le sous-chapitre est la connaissance de soi dans la vie d'entreprise. Donc on a compris que quand on poursuivait une fin personnelle, donc on avait une espèce de, pas une espèce, une motivation intrinsèque, comme disent certains, donc une découverte à ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous rend heureux aussi à vous entendre et rend heureux les autres, même si ça n'est pas sans peine, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner de mal. Maintenant, il faut faire ça, atterrir ça dans la vie de l'entreprise, parce que je vous laisserai prendre des exemples, mais on peut se dire de prime abord que les deux ne font pas forcément bon ménage. Alors, ça m'a étonné, mais vous proposez comme exemple de partir d'Apple et de Steve Jobs, avec entre autres cette campagne fameuse Think Different. Je me suis remis quelques affiches devant les yeux avant de cette émission. Pourquoi vous avez pris cet exemple ?
Parce que ce que j'apprécie beaucoup dans la manière dont Steve Jobs développait son propos, c'est qu'il s'appuyait sur le caractère inspirant des gens qui nous entourent, le caractère inspirant d'une entreprise. Steve Jobs a souvent appuyé sur le fait que Apple était devenu le modèle que les autres imitent. Et il y avait vraiment cette idée de développer une entreprise qui était elle-même inspirante pour les autres, ceux qui n'étaient pas Apple, pour ceux qui utilisaient Apple, mais également pour les employés d'Apple. Alors,
il faut dire
ça
aussi
plus ou moins réussi, mais ensuite, c'est encore...
Quand on a un Mac, on a plus qu'un ordinateur. C'est aussi quelque part, ça illustre, enfin, c'est l'impression qu'on a, mais...
Il y avait une étude qui a été faite par un neuromarketeur, je ne me souviens plus de son nom, qui justement évoquait le fait que lorsque vous avez un Mac, vous travaillez avec un Mac, vous êtes d'extérieur jugé 30% plus innovant que si vous aviez un autre ordinateur, HP ou autre.
Alors cette campagne Think Different, c'est donc une campagne, je ne sais pas si ça a servi de baseline à Apple, ça c'est à vous de me le dire, c'est une espèce donc de, quand on dit baseline, c'est une espèce de quoi, comment on peut dire, c'est de...
Une maxime.
Donc elle a été lancée dans l'entreprise parce que, à lire Steve Jobs, en tout cas dans l'extrait que vous m'avez donné, nous avions un problème et notre problème c'était que les gens avaient oublié ce que représentait Apple. Beaucoup de nos employés l'avaient oublié, bref, l'entreprise a essayé de viser donc d'expliciter une vision par une formulation et là par une campagne de communication. Donc la première chose, c'est que toute organisation doit avoir une vision, c'est ça ?
Bah oui, c'est ça la clé. On peut pas espérer que les gens vous suivent et disent votre vision est formidable si déjà la vision est pas définie. Si on dit par exemple que telle entreprise, je pense à Remarkable par exemple, qui est une start-up qui a sorti une liseuse. C'est pas une tablette, c'est un objet dédié, c'est fait pour la lecture, la prise de notes, les corrections de documents. Vous n'avez pas accès à vos mails, vous n'avez pas accès à Internet, vous n'avez pas accès à vos applications Play Store ou je ne sais quoi. Et typiquement, eux, leur vision, c'était le fait de développer un objet dédié pour justement se consacrer à un travail qui permette de mobiliser toute votre attention. Aujourd'hui, notre attention, elle est souvent divisée. Il n'est pas rare, lorsque vous faites une réunion, de voir que les gens ont leur téléphone à côté, que la moindre notification, ils la regardent, etc. C'est pareil quand on donne un cours ou une formation, ça peut trop souvent arriver. Maintenant, là, c'est un objet dédié. L'idée, c'est, notre vision, c'est ordonner l'ensemble de votre attention à votre développement professionnel.
Donc c'est plus qu'une liseuse.
C'est plus qu'une liseuse. C'est un moyen de réaliser notre vie. Et chez Apple, justement, ce que dit Steve Jobs est très juste, c'est que si on ne réactualise pas la vision qui était la nôtre, c'est-à-dire ce pourquoi l'entreprise avait été créée, eh bien finalement, on peut l'oublier soi-même, nos employés peuvent l'oublier, et tous les acteurs qui sont autour de notre entreprise peuvent l'oublier également, puisque les clients sont des acteurs de l'entreprise.
Ce qui veut dire qu'une entreprise qui a une vision, il faut non seulement la définir, mais après la dire, la re-redire, la préciser. C'est quoi ? C'est comme une équipe de foot, il faut se dire toujours quel est l'objectif, c'est ça ?
C'est ça. Alors, c'est justement où il y a une petite différence entre l'objectif et la vision, mais vous avez raison, c'est tout comme une équipe de foot. C'est qu'il faut toujours être capable de remotiver et de redire en fait aux joueurs qui sont en train de dire, bah voilà, c'est comme ça que je dois faire un touchdown, c'est comme ça que je dois mettre un tir au but, c'est comme ça que je dois faire une passe. Ça fait 2 heures, 3 heures, une semaine, un mois peut-être qu'ils travaillent sur le même geste, ils en peuvent plus, ils ont la tête dans le guidon pour parler ainsi. Bah effectivement, c'est là où il y a le rôle du coach, de l'entraîneur qui va leur dire, mais ce que vous faites là, c'est pas juste gagner, c'est pas juste vous améliorer, vous êtes en train de sauver une ville. Vous voyez, on a vu l'exemple avec les Bulls par exemple. Chicago Bulls. Et c'est la raison pour laquelle non seulement une entreprise doit chercher à établir sa vie, à définir sa vision de la manière la plus spécifique qui soit, qui encore une fois n'est pas un objectif. Un objectif, c'est par exemple avoir 2000 clients en juin 2021, admettons. Bon, bah là, c'est spécifique, c'est déterminé dans le temps, c'est quantitatif, c'est mesurable. Si on prend la vision de CatSpad, par exemple, Smart Solution for Pet Care, les technologies intelligentes au service de la santé animale.
Donc c'est une start-up.
C'est une start-up toulousaine. Eh bien, du coup, on n'aura jamais fini, en fait, de la réaliser, cette vision. Parce que les technologies d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et donc, demain, lorsqu'il y aura de nouvelles technologies, mais il faudra aussi trouver un moyen de les mettre au service de la santé animale, etc.
Toute entreprise a une vision ?
Malheureusement,
une motivation intrinsèque, quelque part ?
Clairement, non. Il y a des...
Parfois, on a l'impression que la fameuse baseline, c'est plus un produit de com' qu'une vision.
Et de fait, parfois, cette fameuse phrase, cette maxime, cette baseline, en fait, c'est souvent... Elle peut être ou bien un corps humain vivant, un athlète, ou bien un cadavre, en fait, sans âme. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est juste une punchline qui a pour but de capter l'attention d'une personne ou l'autre. Mais vécue au quotidien, elle peut justement inspirer les gens qui entrent. Je me souviens, j'étais dans une faculté... lorsque j'étais étudiant à Paris, et on entrait dans la faculté et il y avait tradere veritatem contemplatam, transmettre aux autres la vérité contemplée. Pour un certain nombre de mes camarades, c'était une phrase qu'ils n'étaient pas forcément capables de dire parce que c'était juste une phrase comme ça, rhétorique. Pour moi, c'était devenu ce que je cherchais à vivre au quotidien. Si demain, je voulais transmettre la vérité contemplée, bah, il fallait que je travaille pour pouvoir la contempler, cette vérité. Parce que la vérité, ça se mérite. Et c'est pareil pour moi, pour les punchlines des entreprises.
Alors, vous, en espérant donc que chacun est dans une entreprise qui a une vision, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite aux auditeurs, à tous ceux qui travaillent. On peut aussi, donc, à l'intérieur d'une organisation qui n'a pas forcément une vision très claire, découvrir sa vocation professionnelle, pour utiliser ce mot qui surprendra moins sur cette antenne. Vous avez conçu une formation pour essayer de marier les deux. Alors, vous n'avez pas nous la donner in extenso parce que on ne va pas avoir le temps. Mais peut-être essayer de vous mettre à la place de ceux qui ont une entreprise dans laquelle la vision n'est pas forcément très explicitée, même si elle poursuit probablement quand même un bien, et ceux qui ne sont pas très au clair encore sur leur vocation professionnelle. Quels sont ces outils que vous proposez qui peuvent aider, on va dire, à connaître les deux et à les marier ?
Alors, le conseil que je donnerais est très simple en soi, c'est prenez du temps. Posez-vous au calme, sans votre smartphone, sans éventuellement avec de la musique si vous voulez, mais une musique sans parole pour éviter de capter trop votre attention. Les mazurkas de Chopin. Et je ne sais pas, mais en tout cas, posez-vous et interrogez-vous vous-même sur qui vous êtes. Si vous vous sentez à votre place dans votre vie professionnelle. Et si vous ne vous sentez pas à votre place dans votre vie professionnelle, essayez de vous interroger pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas le bon job ? Ou est-ce que c'est parce que, ou est-ce que c'est les circonstances? Vous n'êtes pas assez payé, pas assez reconnu, vous avez des horaires qui ne vous conviennent pas. Est-ce que c'est votre job en tant que tel, ou c'est les circonstances extérieures? Et en fait, autrement dit, essayez de faire ce qu'ont fait les sages pendant des millénaires, à savoir distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accidentel. Et qu'est-ce qui est l'âme de votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui vous fait vivre au quotidien? Et quelles sont les petites choses qui entravent cette vie professionnelle au quotidien? Et gardez ça précieusement. Et ensuite, essayez de vous poser la question de savoir, mais en quoi ça peut permettre de réaliser la vision de l'entreprise? Et si vous avez des leaders qui ont du mal à l'expliciter parce qu'ils ont aussi leurs soucis, ils auraient peut-être aussi besoin eux-mêmes d'un coach qui leur dit, au fait, mon vieux, oublie pas ça. C'est essentiel, c'est la raison pour laquelle tu as créé ta boîte ou que tu as pris la direction. Peut-être qu'ils l'ont oublié parce qu'ils ont trop de soucis de leur côté. En ce moment, on peut comprendre aussi. Et essayez de vous mettre à leur place et dire, mais pourquoi est-ce qu'on communique comme ça? À quoi un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le leadership authentique. Bah, qui gagne dans ce que je fais? Ce que je fais, qui gagne? Ben voilà, là typiquement, dans Catspad, l'entreprise dont je parlais, les premiers, ceux qui gagnent, ceux qui sont récompensés par le travail des différents employés de Catspad,
c'est les animaux domestiques.
C'est les animaux domestiques, et en l'occurrence les chats, puisque c'est vraiment là, c'était la première cible. Et ce sont les chats, et ensuite, ce sont les propriétaires de chats. Ben, travailler à ça, travailler au bien-être des animaux, à ce qui lui convient le mieux par rapport à leur nature, eh bien, en fait, c'est se mettre au service de l'ensemble de la création quand on y pense. En commençant, une pierre à la fois, par le bien-être des chats. Puis ensuite, on passera peut-être aux chiens, et puis ensuite aux souris, ou je ne sais quoi.
Alors ça, c'est pour l'organisation. On entend qu'on peut faire ce travail seul, à défaut qu'il soit fait dans son entreprise. Après, comment peut-on espérer, Médéric Saucet, de marier le projet de l'entreprise, sa vision, avec le service qu'on serait chacun censé être appelé à rendre, même si on imagine qu'il peut y avoir de multiples déclinaisons. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez reparler à la première personne pour le coup?
Par rapport donc à la formation que je vous ai présentée. Donc effectivement, pour moi, ça s'axe autour de quatre concepts principaux qui sont la vision, la vocation, la mission et l'action. Vision, vocation, mission, action. Si vous êtes dans l'idéal, et c'est ce que je fais moi lorsque j'accompagne des groupes, c'est que j'essaie de voir de quelle manière peuvent s'articuler de la manière la plus naturelle qui soit la vision de l'entreprise, la vocation professionnelle des différents employés, des différents partenaires de l'entreprise. Et donc ça, c'est la première étape, déterminer la vision. Comment est perçue la vision par les employés? Comment est définie la vision par le leader, le CEO, le président, qui vous voulez, celui qui a le mandat social? Aider chacun des employés à discerner sa vocation professionnelle et par ailleurs, établir justement entre les décisionnaires et ceux qui reçoivent leur mission, les missions les mieux adaptés à la vie professionnelle. Est-ce qu'il faut changer les circonstances? Est-ce qu'il faut justement diminuer le temps, augmenter le temps, augmenter l'équipe, diminuer l'équipe, parce que parfois c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, du coup, pour que les actions qui sont posées au quotidien soient le signe d'une mission donnée par le responsable de l'entreprise qui permette non seulement d'atteindre les objectifs de l'entreprise, de réaliser la vision de l'entreprise, mais également à l'individu de réaliser sa vocation professionnelle. Autrement dit, ça peut pas se faire sans une écoute interpersonnelle entre les dirigeants, ceux qui sont dirigés, afin de poser les choses d'une manière nette et afin de voir comment mieux proportionner les actions, les missions, les vocations et la vision de l'entreprise.
Médéric Saucet, je sens que ça va devenir au long de cette année ma question piège de fin d'émission. C'est qu'on peut sortir de ces émissions en se disant, si on a la chance de travailler dans une grande entreprise ou qui se donne les moyens justement de réfléchir et de donner à des employés souvent cadres ou plus les outils, tous ces outils très intelligents, on est en dessous du numéro du loto. Est-ce que c'est un peu exagéré comme vision? On peut ressortir de là en se disant c'est très bien mais c'est pas pour moi.
Alors si on sort de là en disant c'est bien, c'est pas pour moi parce que c'est pas possible, ou c'est un jeu, c'est le loto, Je dirais que je ne dirais qu'on ne peut utiliser que ce qu'on nous a transmis. On ne peut transmettre que ce qu'on a nous-mêmes reçu. Vous entendez cette émission, ça veut donc dire que vous avez une idée générale sur ce qu'on vient d'échanger aujourd'hui et que vous avez peut-être jugé qu'il y avait au moins un élément qui pouvait être intéressant. Au fur et à mesure, on a donné des références. Vous pouvez tout à fait voir ces références, les communiquer, laisser traîner un livre, en parler à votre leader, en parler à d'autres collaborateurs avec lesquels vous êtes égaux. Bref, cette connaissance que vous avez acquise, eh bien, c'est une étincelle. On sait très bien qu'une étincelle, ça peut permettre de provoquer un feu, ou alors ça ne sert à rien. Que ferez-vous de cette étincelle ?
Eh ben merci pour d'avoir inauguré cette série « Mieux vivre son job, connaissance de soi et vie d'entreprise ». On peut rappeler une dernière fois le titre d'un livre que vous avez cité, donc « Le leadership authentique ». C'est de François-Daniel Mijon. Un grand merci à vous, Médéric Sosset.
Merci à vous, Emmanuel.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.